Les fromages.
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 Les fromages AOP en France.
Commençons par le commencement. L'histoire des fromages. La plus vieille trace de fromage que l'on a retrouvée à ce jour date de 7000 avant Jésus-Christ et se trouve en Pologne. On a retrouvé des résidus de fromage à Sommer, en Égypte et même dans le Sahara. Partout où il y avait des pâtures, on a retrouvé des traces de fromage. Ces vestiges de fromage se trouvent le long des premières routes migratoires de l'humanité. Ces routes sont appelées aujourd'hui Euphrasie. Euphrasie, pourquoi ? Europe, Asie, Afrique. Et oui, elles sont dans les deux sens. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce qu'on a pu penser pendant des années, ce qu'on nous a appris à l'école pour les gens qui ont plus que 20 ans, eh bien, voilà, on nous disait l'Afrique, direction l'Europe, en passant par la Corne, etc., etc. Là, non. Aujourd'hui, on appelle ça l'Euphrasie. L'Euphrasie, parce qu'on sait que les routes migratoires étaient dans les deux sens. Donc, nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans nos découvertes. Qui sait, aujourd'hui, en Pologne, avant-hier, c'était en Égypte, l'année d'avant, c'était encore ailleurs. Où va-t-on trouver la plus vieille trace de fromage ? On ne sait pas encore.
Les fromages.
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 Les fromages AOP.
Alors, comment est-on passé du lait au fromage ? Eh bien, c'est sans doute dû à un accident de transport. Les gourdes des bergères. Eh oui, j'ai bien dit des bergères. C'est souvent des bergères qui gardent les troupeaux. Donc, les gourdes des bergères étaient faites en panse de brebis. Quand il y avait des brebis à garder. Les techniques de tannage et de nettoyage étaient encore peu poussées, voire même un peu aléatoires. La bergère du troupeau, qui avait sans doute du lait dans sa gourde pour se désaltérer, bah oui, c'est plus facile de remplir une gourde de lait avec du lait quand dans son troupeau on a du lait, que d'avoir de l'eau. Parce que si vous avez de l'eau au bout d'un moment, si vous êtes dans des alpages où il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas le remplir. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous remplissez votre gourde avec du lait. Et vous la remplissez au fur et à mesure. Donc là, la bergère a la soif. Elle veut boire. Hop, elle appuie sur sa gourde et plutôt que d'avoir du lait, elle a une espèce de faisselle. C'est ainsi qu'est né le premier fromage. Et pourquoi c'est important d'avoir une panse, et une panse de brebis en l'occurrence ? Parce que la pressure permet de faire le fromage. Sans pressure, pas de fromage. Dans les endroits où on faisait des gourdes avec des estomacs d'animaux, donc pas des panses, on n'a jamais trouvé de résidus de fromage.
Les fromages.
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 Les fromages AOP en France.
Les hiéroglyphes égyptiens nous ont permis, entre autres, de savoir que les prêtres gardaient le secret de la fabrication pour eux. Ça leur permettait, un, d'avoir l'exclusivité de la distribution du fromage, puisqu'il n'y avait qu'eux qui le fabriquaient. Et en plus, du coup, ils s'en servaient aussi, ils en avaient la garde, ils s'en servaient quand il y avait des grandes disettes ou des petites disettes pour le distribuer à la population. Cela rapportait deux choses, un, du pouvoir, et deux, un moyen de pression aussi sur le gouvernement égyptien. On parle aussi du fromage dans l'Odyssée d'Homère, 7e siècle avant Jésus-Christ, figurez-vous. Il est question de fromage dans les aventures d'Ulysse. Eh oui, le Cyclope, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique du fromage. Le fromage est peu diffusé dans les populations pendant très longtemps, soit pour des questions de secret, comme on a vu par exemple avec les prêtres égyptiens, soit aussi, surtout pour des questions de coût. Bah oui, pour faire 1 kg de fromage, il faut 10 litres de lait. Une petite révolution dans la diffusion du savoir-faire du fromage va avoir lieu grâce à M. Columel, aux alentours de 60 après Jésus-Christ, qui décrit dans un de ses traités la façon de faire le fromage. Ce traité va servir à transmettre le savoir aux légionnaires. Et oui, les légionnaires, quand ils vont à l'école de la Légion, on leur apprend à faire du fromage. Et ça va être assez important. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a des légionnaires un peu partout en Europe. Un peu partout, sauf dans un petit village bien connu de Gaulois.
La diffusion de ce savoir-faire à travers l'Europe se fait grâce aux légionnaires. En deuxième chose, les légionnaires, une fois qu'ils ont fini leur temps, ils gagnent en général de la terre là où ils sont situés et ne reviennent pas chez eux. C'est très rare les légionnaires qui rentrent chez eux. Donc, ce savoir-faire est diffusé à travers l'Europe et reste sur l'Europe. Ensuite, ce légionnaire, une fois qu'il a fini d'être légionnaire, il a quand même une vie derrière, et il y en a qui choisissent de faire du fromage. Donc, voilà la troisième raison pourquoi M. Columel est vraiment très important dans la diffusion du fromage. On voit qu'il a été diffusé grâce à lui à travers l'Europe, et ensuite, il vient se faire dans des terroirs où il n'y avait pas de fromage. Avec l'effondrement de l'Empire romain, plusieurs choses arrivent. Il n'y a plus de grandes voies commerciales qui passent de n'importe quelle région d'Europe vers Rome. Et comme Rome n'achète plus tous les produits et n'exporte plus aussi ses produits, les produits restent plus souvent sur le terroir. Ça, c'est la première chose. Donc moins de voies de communication et comme il y a des nouveaux terroirs, des nouveaux royaumes, on va mettre en avant aussi les produits du royaume. C'est ce qu'on continue aujourd'hui à faire avec la marque France ou des choses comme ça. Donc, on continue à promouvoir d'autant plus les produits régionaux remarquables, de nouveau mis en avant du terroir. Et troisième chose, en même temps, il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Empire romain, malgré que, c'est l'Église catholique qui commence avoir une prépondérance et une exclusivité, et qui dit Église catholique dit abbaye et surtout monastère. Et qu'est-ce qu'on fabrique dans le monastère? En plus de la bière, surtout du fromage. Pourquoi on fabrique du fromage? Les monastères sont en général hors de la ville, sont souvent dans des endroits reculés. Ça permet quoi? Le monastère, du coup, avec son fromage, ça lui permet de se nourrir, même dans les périodes d'hiver, où il y a de la neige, où on ne peut pas se déplacer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça leur sert aussi de monnaie d'échange avec l'extérieur. Ils ont besoin d'échanger, ils échangent un fromage contre des services ou contre des produits. Et troisième chose, quand les moines voyagent, ils peuvent voyager avec des fromages, pour payer et aussi pour se nourrir. Donc, l'Église catholique, d'une certaine manière, propage aussi le côté terroir du fromage, parce qu'ils ont fabriqué des fromages dans les monastères.
Les fromages AOP en France.
La ration d'hiver avec le fromage, pourquoi est-ce aussi important à ce moment-là? Avant 1492, pas de pommes de terre. Non. D'ailleurs, un petit peu plus tard, ça arrive. Mais qu'est-ce qui résout une grosse partie des disettes d'hiver? C'est la pomme de terre. Et la pomme de terre, ça vient d'Amérique. Donc, avant l'Amérique, pas de pommes de terre. Voilà. Donc reparlons des avantages du fromage par rapport au lait. Donc on a vu la conservation, la facilité de transport et la facilité de consommation. Oui, parce que c'est plus facile de partager un fromage, quel qu'il soit, en plusieurs parts, équitable ou non équitable, pour se le garder soi-même et de le manger au fur et à mesure. On sait qu'on a 8 jours, et bien on va le partager en 8. Vous voyez, on peut partager un fromage au fur et à mesure. Un litre de lait, quel que soit, du moment que c'est en liquide, à part si vous savez exactement le nombre de gorgées, des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile à avoir au niveau de la segmentation du produit. Ça, c'est pour la facilité de consommation. Ensuite, facilité de transport. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est beaucoup plus facile d'avoir un fromage dans un sac ou ailleurs pour le transporter qu'un litre de lait. Un litre de lait, déjà, il faut quelque chose qui puisse le contenir, parce que c'est liquide. Ensuite, un litre de lait, au-dessus de 24 heures, on ne peut plus le consommer. Ben non, ça devient un petit peu périlleux pour notre organisme. Un autre avantage, c'est qu'on va s'en servir aussi comme moyen de paiement. Ben oui, je t'échange mon fromage contre quelque chose, ou la moitié d'un fromage, etc., etc. Donc, c'est quand même très avantageux. Mais ça reste un produit cher. Pourquoi ça reste un produit cher? Parce que pour faire 1 kg de fromage, il faut 10 litres de lait quand même. Donc, ça reste un produit coûteux, mais du coup, comme c'est coûteux, ça reste une monnaie de référence assez importante. Et on commence déjà au milieu du premier millénaire, aux alentours de 1300, 1400, à connaître des fromages. Par exemple, le Munster est connu. Il y a deux Munsters et les deux Munsters sont déjà connus. Petite anecdote pour vous prouver l'usage du fromage et pourquoi on choisit un fromage pour son côté. Je vais pouvoir le transporter et je vais pouvoir le diviser. Au début du XXe siècle, l'armée française cherche absolument un moyen pour que tous les soldats aient une ration quotidienne de produits laitiers. Ils recherchent à travers toute la France, sur tous les terroirs, un fromage qui pourrait correspondre à quelque chose qui peut se garder, qui peut se diviser facilement et qui peut se refermer. Sur quoi ils portent leur choix? Sur le camembert. Et c'est ainsi que le camembert s'est diffusé. Alors qu'avant ce choix-là, le camembert, c'était un fromage qui était très très peu connu. Grâce à l'armée française, qui, à l'instar des légionnaires de l'Empire romain, eh bien, l'Empire français, eh ben, ils ont des soldats partout. C'est ainsi que le camembert devint un fromage très connu à travers le monde et diffusé partout. En plus, petite cerise sur le gâteau, le camembert, ça permettait aussi, comme il y a du bois autour, d'allumer les bivouacs. Eh oui, comme quoi une petite boîte peut tout changer. Et une petite chose comme ça, ça a permis de changer l'image même du camembert. L'anecdote va vous permettre de voir l'évolution du fromage. On est en 1712. Madame de Navarre offre 200 bris de veau à Philippe Auguste pour qu'il les donne aux dames de sa cour. Vous imaginez déjà, on choisit de faire un cadeau, un fromage, mais pas n'importe quel fromage, le bris de veau. On est en 1712. On en produit 200. Ça veut dire qu'on a une façon de fabriquer ce fromage qui est toujours la même. Donc ça veut dire qu'un brie de Meaux, c'est déjà rond, c'est déjà un peu plus grand qu'un camembert. Alors, à l'époque, on ne connaît pas encore le camembert tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est plus grand, c'est blanc, et ça se partage. Donc, et c'est connu pour être bon. On est en 1712, les 200 bris arrivent à la cour. Vous imaginez bien que les femmes de la cour ne vont pas d'un seul coup se baffrer de brie et ne faire que ça. Et elle le partage avec les gens qui gravitent, et ainsi de suite. Ainsi, à la cour de Philippe Auguste, on commence à connaître partout et pour tout le monde le brie. Et en plus, comme c'est un cadeau royal, ça commence à avoir un certain prestige.
Les fromages AOP en France.
Mais revenons au XXe siècle. Il n'y a pas que l'armée qui va faire quelque chose pour le fromage. Il y a un personnage très très connu sur lequel aujourd'hui on pourrait dire que c'est peut-être une des personnes les plus importantes pour l'humanité au XXe siècle et au XXIe du coup. Monsieur Pasteur. Monsieur Pasteur, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre les bactéries, les micro-organismes. Et il va se pencher sur la fabrication du fromage. Il va mettre à jour tous les paramètres comme Coulmen, sauf que lui, c'est de façon scientifique, avec des microscopes, des techniques qui sont beaucoup plus avancées qu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Grâce à ces découvertes, on va pouvoir faire de façon industrielle du fromage. Et là, vous allez me dire, alors du coup, on passe d'un produit de terroir, traditionnel, de qualité, fait par des moines, et quel est l'avantage d'avoir un produit industriel ? Ce savoir-faire industriel va permettre à tous les enfants français de pouvoir avoir une portion de lait partout, quelle que soit le jour, l'année et surtout n'importe quel temps. Ainsi, on ne gâche plus de lait, on peut le transformer et on peut même recycler des fromages qui sont surfaits. Un exemple type, c'est quand même les fromages fondus type vache qui rit. Voilà pourquoi c'est un avantage d'avoir un produit industriel. Ça n'a pas que des désavantages, hein. Sinon ça ferait depuis très longtemps qu'on ne ferait plus de fromage industriel. On arrive à l'AOP, mais on peut se rendre compte d'une chose. On a commencé cette petite histoire, on est en moins 7000 avant Jésus-Christ, et on n'a pas fini de faire des découvertes. On est au XXe siècle. 9000 ans se sont passés pour avoir un process industriel qui puisse tenir la route. Vous imaginez qu'on a appris à faire du fer en moins 700 avant Jésus-Christ. Pour vous donner un ordre d'idée comme quoi c'était un peu dur quand même de pouvoir avoir tous les paramètres d'un fromage et comme quoi aujourd'hui c'est toujours dur. On connaît comment le faire, mais du coup la façon de faire toujours le même fromage, c'est quand même beaucoup, beaucoup de paramètres à connaître et à pouvoir maîtriser.
Les fromages,
les fromages,
les fromages, les fromages,
les fromages,
les fromages,
les fromages,
les fromages,
les fromages AOP en France.
Là, on arrive enfin aux AOP. Mais avant les AOP, ça s'est copié un peu sur un système français, pour une fois, cocorico, qui s'appelle l'AOC. Mais avant l'AOC, on a les appellations d'origine. Et oui, parce que quand vous regarderez sur les bouquins, vous allez dire, ouais, bon, l'AOC, 1935. Oui, mais juste avant, il y a quelque chose qui s'appelle l'appellation d'origine et contrôlée, mais ça existe pas telle qu'on va la connaître en 1935 par le décret. La première appellation d'origine remonte à 1905. Et au départ, ça servait à contrôler les vins et liqueurs en France, et pour éviter la fraude, parce que alors, fin du 19e siècle, il y a une fraude massive sur tout ce qui va être raisin, et, ben, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la vigne, donc du coup on importe, on fait n'importe quoi, et le gouvernement met le holà en faisant les appellations d'origine. Parce que quand vous allez regarder, vous allez me dire, mais attendez, vous me dites que les AOC, donc les AOC, le décret des AOC qui va créer les AOC et l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui va servir justement à contrôler les appellations d'origine contrôlées, ça date effectivement de 1935. Mais il y a une appellation d'origine qui existe depuis 1905, et la preuve en est, c'est que la première appellation laitière en AOC, c'est le Roquefort, et c'est en 1925. Donc, ne mettez pas en doute cette petite date, c'est vraiment en 1905 qu'on a fait les premières AOC. Le décret qui définit complètement cette AOC avec l'INAO, c'est 1935, et ça sert au départ à contrôler surtout les vignes, à contrôler les raisins, à contrôler les liqueurs, à éviter la fraude. C'est la première fois aussi où on reconnaît d'une façon légale et définitive auprès d'un gouvernement la notion de terroir dans une fabrication agricole. Très 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 important. Il faudra attendre 1992 pour que l'AOP, qui elle est de l'appellation d'origine protégée, et la grosse différence, c'est un sigle européen. Et donc, il y a une appellation qui sert à protéger au niveau européen. Là où c'est à l'origine, ça protège en France, ça protège juridiquement, ça aide à l'étranger, mais l'AOP, tout de suite, ça protège sur l'ensemble de l'Europe. Et pour faire l'AOP, on fait un sigle, et ce sigle, qu'est-ce qu'il a? Il a 12 étoiles qui représentent les 12 pays membres, les 12 premiers pays membres, avec des sillons stylisés au milieu, et ça va être ça, le sigle de l'AOP. Mais on en saura plus dans le prochain épisode.
Les fromages,
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 les fromages AOP en France.